Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Et nous allons voir les quatre premiers versets. Romans 8, 1 through 4. Donc Romains chapitre 8 et les quatre premiers versets. Je crois que j'ai envie de lire déjà les 11 versets. Parce que c'est un peu le thème qui est là. Romains chapitre 8, et la prédication de ce matin est intitulée « En Jésus-Christ et selon l'Esprit » ou « L'Esprit Saint ». Et vous allez voir, et on va souligner le fait que dans ce chapitre, c'est là où vraiment il développe la pensée de l'Esprit Saint qui est en nous. Donc Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour nous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et remarquez combien de fois on a le mot esprit. En fait, si vous lisez tout le chapitre, vous allez trouver le mot esprit 21 fois dans ce chapitre. Et bien sûr, là, nous progressons dans l'Épître aux Romains et nous avons déjà vu comment celui qui plaçait sa confiance, hein, qui faisait foi à la parole de Dieu, la promesse de Dieu, j'aime dire la promesse de Dieu, parce que chaque fois que Dieu parle, c'est une promesse. Et je fais confiance à la promesse et je bâtis le reste de ma vie sur cette promesse. C'est ça la marche par la foi. Et donc, pour celui qui a placé sa foi et sa confiance dans cette promesse de Dieu, qui consiste à croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et que si je lui demande de me pardonner, il le fait. Hein, c'est le premier acte de foi pour le pécheur. Et donc, en faisant cela, il reçoit, et comme il a dit, il a parlé de Abraham et de David, qui, lorsqu'ils ont confessé leurs péchés, eh bien, ils ont été justifiés. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a dit, ben, non, tu n'as jamais péché, tu es bon, là, on ferme les yeux et puis on continue. Non, 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 vous êtes justifiés, c'est-à-dire vous êtes déclarés justes. Hein. Que des coupables peuvent être déclarés justes. Et c'est ça le message de l'évangile de Dieu, comme il disait au chapitre 1, hein, l'évangile de Dieu. Et là, maintenant, depuis que nos péchés sont pardonnés, eh bien, dans les passages, hein, chapitre 6, il nous parle de cette nouvelle nature que nous avons. Hein, nous avions une nature ancienne de péché. Maintenant, nous avons une nouvelle nature. Les deux coexistent pour l'instant. Mais il nous dit, en fait, l'ancienne n'a pas de prise sur nous, hein, sur la nouvelle. Elle peut influencer, elle peut attaquer, hein, et on ressent l'attaque. Et la tentation, l'épreuve et tout ça, mais il n'y a pas de prise. Et cela en attendant que le corps sera transformé, glorifié et nous serons dans la gloire, puis là, il n'y aura plus de traces du passé. Parce que maintenant, bien, nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage du péché, mais maintenant, nous sommes sous un régime nouveau de l'esprit, comme il nous dit. Vous allez, ce chapitre 8, c'est l'un des grands chapitres de la Bible, hein, parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. Et vous avez remarqué que ça commence, le verset 1 commence par « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Il commence par cette idée « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et le chapitre termine, et bon, ça nous prendra peut-être quelques semaines pour arriver jusque-là, mais le chapitre termine avec, il dit « Et il n'y a aucune séparation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Impossible, il a dit, il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Donc ça commence avec, il n'y a pas de condamnation, et termine avec, rien ne peut vous séparer. Vous savez, déjà rien que ça, hein, il y a une sécurité extraordinaire que nous avons, grâce à l'œuvre de Christ. Hein, et c'est quelque chose que nous ne pouvions pas produire pour nous-mêmes, mais que lui nous offre, et gratuitement, et c'est à la disposition, et c'est pas, ça n'a rien à faire avec la qualité de pécheur, hein, si chez les hommes on a des grands pécheurs et des petits pécheurs, mais devant Dieu, tu es pécheur, c'est pécheur. Hein. Hein, vous avez des grands paquets de poison et vous avez des petits paquets de poison, mais n'importe comment, c'est du poison. Hein. C'est tout. Hein, mais ce que le Seigneur, le sang de Christ, est suffisant pour neutraliser tout cela. Hein. Alors, dans ce chapitre 8, et comme je vous l'ai dit, hein, donc ce chapitre 8, il commence à nous présenter plus qu'ailleurs l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a pas mentionné l'Esprit de Dieu avant, hein, parce qu'il en a parlé déjà, il a fait mention à l'Esprit de Dieu. Mais là, dans ce chapitre, alors là, il va nous montrer l'œuvre de l'Esprit dans la vie du chrétien. Et c'est très important, et ça nous prendra plusieurs semaines certainement pour développer tout cela. J'ai eu un frère qui m'a appelé, il m'a dit, écoute, il écoute les messages sur l'internet, il a dit, c'est en écoutant tes messages que j'ai compris l'œuvre de l'Esprit, et je suis tellement soulagé. Alors, certainement, il va écouter ce message, et puis voilà, on va continuer dans ce sens. Mais pour ce qui est le mot esprit, hein, donc le mot grec c'est pneuma, hein, c'est donc en français on a pneuma dans pneumatique, ou bien on a une pneumonie, hein, ça, c'est le fait du souffle, du vent, hein, c'est un souffle, un vent. L'esprit, c'est le même mot en grec pour un souffle, d'où l'image dans Jean chapitre 3 où Jésus parle du vent qui souffle et de l'esprit qui agit, hein, donc c'est un jeu de mots. Donc mais ce mot se trouve, comme je vous l'ai dit, 21 fois dans ce chapitre. Déjà dans le Romains chapitre 5, verset 5, il nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. » Donc déjà, quand il parle de ceux qui ont été justifiés. Hein, Romains 5, c'est ceux qui sont justifiés par la foi. Il dit « Déjà, vous avez reçu l'Esprit et lui est en train de produire en vous l'amour, hein, qui est le fruit de l'Esprit, hein, ce qui convient tout à fait. » Et donc Romains chapitre 7, il nous parle du fait que nous sommes sous un régime nouveau, le régime nouveau de l'Esprit, et nous dit en Romains 7 verset 6, il dit « Nous servons sous un régime nouveau de l'Esprit ». Avant c'était le régime du péché, maintenant c'est le régime de l'Esprit. Donc déjà il nous a introduit à l'idée, mais ici dans ce chapitre il va développer cela beaucoup plus, et nous allons voir. Mais il y a intéressant, il commence au verset 1, vous remarquez, il nous dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et on a focalisé sur le fait de condamnation, aucune condamnation, et déjà on trouve ça pas mal. Mais remarquez qu'il dit « en Jésus-Christ ». C'est-à-dire ce n'est vrai que si nous sommes en Jésus-Christ. C'est-à-dire depuis le chapitre 5, quand il a commencé à parler de justification, là il s'adresse à ceux qui croient, hein, ceux qui ont exercé la foi, qui ont fait confiance. Et donc, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une vérité que l'apôtre Paul mentionne, après qu'il le caractérise énormément, parce que lui, il était, vous comprenez, hein, vous connaissez son arrière-plan, il était dans la loi, il pratiquait la loi, il avait pu dire, mais il dit, quant à la loi, je suis irréprochable, et il avait trouvé toute son identité dans la loi, il était pharisien, des pharisiens. Mais là, il a compris que finalement, tout cela, c'était pas ça qui le sauvait, c'était le fait d'être en Jésus-Christ. Et donc, tellement ça va le marquer, il en parlera souvent, et en particulier quand il s'adresse aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, eh bien, vous pourrez compter combien de fois il dit « en lui, en Christ, en Jésus hein, », c'est « en Christ hein, », c'est le fait d'être « en Christ ». Et c'est important pour nous de le saisir aussi, et il le souligne surtout parce que, bien sûr qu'il s'adresse à certains de son auditoire, sont d'origine juive, et eux, ils avaient tendance à croire que parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, par Isaac, le fils de la promesse, qu'ils avaient quand même certaines protections et certaines faveurs. Ce que lui pensait aussi, et ce que beaucoup autour de lui pensaient encore, et même de nos jours. Hein. Donc il dit, mais non, ce n'est pas un fait, c'est pas le fait que vous soyez né d'Abraham, ou que vous avez entendu le message de Moïse, tout ça, c'est fait pas de différence. Et vous savez, des fois, de nos jours même, il y a des gens qui essaient de faire valoir des choses, dans le sens qu'ils placent leur confiance, ils disent, ouais, mais moi, j'ai été baptisé à l'église. Hein, donc, et puis un autre va dire, en étant baptisé dans l'Église, j'ai été introduit dans l'Église, je suis sous l'alliance de Christ, et donc je suis protégé par cela, et c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ce que Paul dit. Il y a ceux qui pensent être saufs parce qu'ils se sont soumis au sacrement de l'Église, il y en a d'autres qui sont rassurés par le fait d'avoir parlé en langue, j'ai parlé en langue, donc c'est bon. Et Paul ne dit pas ça. D'autres disent, mais c'est parce que, et d'autres, ils sont un peu dans le sens de, mais si je reste fidèle jusqu'au bout, hein, celui qui restera fidèle jusqu'au bout vaincra. Hein, et il y a tout un mouvement, même dans les milieux évangéliques, par rapport à cela. Mais Paul dit non, il dit, c'est le fait d'être en Christ, sans condition. Il y a pas, c'est la seule chose, d'être en Christ. Et en Christ, eh bien, il y a le salut. Et c'est très important. Et Paul dit que cette vie que nous avons en Christ, eh bien, elle sera selon l'Esprit. Et c'est ce que le Seigneur, l'Esprit produit en nous. C'est être en Christ, être introduit dans le corps de Christ. Et ce qui est le sens du baptême de l'Esprit, c'est d'être introduit dans le corps de Christ. Alors, je suis en train de faire un grand cas du fait d'être en Christ. Alors, soyons sûrs que nous comprenons ce que ça veut être d'être en Christ. Hein. Ça ne veut pas dire être membre d'une église, ça ne veut pas dire j'étais baptisé dans une église baptiste et en plus. Hein. Donc, non, ça n'a rien à faire. Il n'a pas dit ça. Hein. En fait, ça n'existait même pas à l'époque. Mais qu'est-ce que veut dire être en Christ, en Jésus-Christ ? Permettez que je fasse appel à une histoire de l'Ancien Testament pour illustrer. Hein, Noé. Si vous voulez voir avec moi, hein, donc dans Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 7, je vous donne le temps de trouver. Pendant que vous cherchez, je vais vous rappeler que l'histoire de Noé, certains trouvent ça un peu extraordinaire. Mais sachez que Jésus-Christ y croyait. Hein. Jésus-Christ parlera de Noé et que même les apôtres y croyaient aussi parce que Pierre fera référence, on va lire ça tout à l'heure, hein. Pierre faisait référence aussi à Noé. Et même dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit c'est par la foi que Noé. Hein. Donc le Nouveau Testament croit, hein, les écrivains de du Nouveau Testament croient en l'histoire de Noé. Hein. Et Jésus en parle tel que c'est. Il en fait référence, on en parlera plus tard. Mais c'est une vraie illustration, c'est une vraie histoire, ça s'est réellement passé. Donc, vous êtes en Genèse, j'entends plus les feuilles, hein, donc Genèse chapitre 7, verset 1. Donc, dans le chapitre 6, Dieu a dit à Noé, écoute, il va y avoir un déluge, chose qui n'avait jamais, j'étais jamais arrivé encore. Et il a dit, tu vas construire un bateau. Et construire un bateau sur la terre, c'est pas, même pas près de la mer, mais construire un bateau, un grand bateau, et lui donne les tailles et tout. C'est assez extraordinaire comme bateau, avec trois niveaux, et, presque un bateau de croisière. Hein. Et au verset 7, donc chapitre 7, verset 1, il nous dit, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Donc il lui dit, « Entre dans l'arche. » Ça n'a pas suffi qu'il construise l'arche. Ça ne suffit pas qu'il plante sa tente près de l'arche. Ça ne suffit pas qu'il admire l'arche. Il dit, oui, je crois que l'arche, c'est extraordinaire, ça, je suis convaincu que ça peut flotter. Ça ne suffit pas, il fallait entrer dans l'arche, il a dit. Hein, Dieu a dit d'entrer dans l'arche. Et il a fallu qu'il entre avec toute sa famille. Et sur l'invitation de Dieu, et pour être protégé du jugement de Dieu. Hein, le déluge et le jugement de Dieu. Pour être protégé du jugement de Dieu, il fallait être dans l'arche. Au verset 5, il nous dit que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, donc il a fait, non seulement ce qu'il a construit, mais en plus il est rentré dans l'arche. Il nous dit même au verset 13, il nous dit que Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, Noé, Sem, Cham, Japhé, fils de Noé, la femme de Noé, et les trois femme de ses fils, donc 8 personnes en tout, et ils sont tous entrés dans l'arche. Et comprenez que les seuls qui furent sauvés sont ceux qui sont entrés dans l'arche. Et il nous dit, ils sont entrés parce que Dieu avait prévu, il a dit, quand tu feras l'arche, tu feras une porte, il y aura une porte et une fenêtre. Il y a une porte, certainement sur le côté, et au verset 16, et à la fin du verset 16, il nous dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc c'est Dieu qui a fermé la porte, il dit entre, et puis il a fermé la porte, dans le sens, non pas pour empêcher Noé de sortir, mais ça y est, c'était terminé, on ne pouvait plus rentrer. Et ils sont dans l'arche. Et au verset 23, eh bien, il nous dit que Noé et ceux qui étaient avec lui, c'était les seuls qui furent sauvés. Hein, c'est les seuls qui sont rentrés, c'est les seuls qui s'en furent sauvés. La seule protection que Noé avait du jugement de Dieu, hein, donc les flots, c'était l'arche, hein, ce grand bateau. Je me répète, mais je dis, il fallait qu'il soit dans l'arche, pas accroché à l'arche, hein, pas croyant que l'arche existe, ni se dire oui, mais c'est quand même moi qui ai abattu les arbres avec lesquels ils ont fabriqué cette arche, hein, donc je mérite un peu quelque chose. Même pas, hein, même pas. Il dit le seul moyen, c'est le fait d'être dans l'arche. Même Noé avait besoin d'être dans l'arche. Et quand on entre dans l'arche, hein, quand Noé est entré dans l'arche, finalement il s'est séparé du reste du monde. Il a marqué une séparation. Lui a écouté à une voix, eux n'ont pas écouté. Hein, il y a une distinction. Il s'est distingué de ceux qui observaient de loin, hein, qui étaient là en train de dire, il parle, mais bon, on n'a jamais eu de déluge. Et il s'est distingué de ceux qui sont incrédules. Hein, il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, 1 Pierre 3, 3, 20, il nous dit qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Pierre dit, ils étaient incrédules. Incrédule, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru. Hein? C'est... Ils se distinguent de ceux qui ne sont pas entrés. Hein. Il y a ceux qui sont entrés et ceux qui ne sont pas entrés. C'est ça, là. En fait, finalement, c'est ça. Hein. Et de nos jours, hein, c'est où on est en Christ ou on n'est pas en Christ. C'est la seule distinction. Il n'y a pas d'autre distinction. Hein, le clocher sous lequel on s'installe pour adorer le Seigneur, ça n'a rien à faire. C'est où on est en Christ ou on ne l'est pas. Hein. Le salut, en fait, était dans l'arche, hein, pour ce qui est de Noé. Et nous ne sommes pas des baleines, hein, ces crustacés qui s'accrochent à la coque du bateau, hein, et puis qui, ces parasites, hein, qui profitent et qui voyagent avec le bateau. Ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Hein, y a pas, on ne s'accroche pas au bateau. On est ou dedans ou pas du tout. Hein, et l'arche avait un rôle très important, parce que si on était dans l'arche, les flots ne pouvaient pas nous atteindre. Le jugement de Dieu ne pouvait pas atteindre ceux qui étaient dans l'arche. Ceux qui étaient dehors, eh bien, ils étaient confrontés au jugement de Dieu. Mais ceux qui étaient dans l'arche étaient protégés par l'arche. Il nous dit dans le chapitre 6, hein, de Genèse, il nous dit que l'arche de Noé était de bois de gopher. Et ce bois était enduit de poix. Hein, POIX. Le mot poids est traduit, il vient de l'hébreu, là, hein, c'est la traduction de l'hébreu, et le mot hébreu c'est kopher. Kopher, qui est le même mot qui signifie rachat, rédemption, rançon, prix de rachat, comme dans par exemple psaume 49, 8. C'est ce mot-là qui est appelé. Donc il nous dit que le bois était enduit de poids, de kopher. Le mot kopher, c'est le prix de rachat. C'est ce qu'on paye pour sauver quelqu'un, pour racheter quelqu'un. Dans tout l'Ancien Testament, c'est le bon hébreu. Et donc, mais vous savez, on revient à Romains chapitre 8, c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire de Jésus-Christ. Parce que, en fait, ce bateau était le moyen de salut pour Noé. Jésus-Christ est notre arche, hein, avec un A majuscule. Mais regardez au verset 4 de Romains 8. Il nous dit, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous. Finalement, il est en train de dire, l'arche de Noé s'était faite avec du bois, hein, ce qui quelque chose de terrestre, et enduit de kopher, du prix du rachat. Jésus-Christ, eh bien, a quitté la gloire céleste, il est né d'un homme terrestre. Jésus, homme, était le produit terrestre, comme le bois. Et à la croix, il a été enduit du poids, du prix de rachat. Hein, le sang de Christ, c'est ce prix de rachat. Hein, c'est notre rançon. Et donc, là, tout comme hein, l'image de Noé, hein, l'arche en bois enduit de poix qui a protégé Noé et sa famille du jugement, donc des flots, eh bien, nous, Jésus-Christ est notre arche qui était un homme comme nous. Vous avez remarqué qu'il était semblable à celle du péché. Lui, il n'avait pas le péché. Semblable à celle du péché. Mais il avait un corps comme le nôtre. Et ensuite, par la croix, par ce qu'il a fait sur la croix, eh bien, il a acquis le prix de rançon de quoi nous rançonner et nous délivrer, nous racheter du péché. Et il est notre protection pour nous protéger du jugement de Dieu, juste jugement de Dieu qui repose sur les pécheurs. Hein, et c'était pas une question d'empêcher le jugement de venir, c'est une question de se protéger contre ce jugement. Hein, et comme Dieu a pourvu pour Noé, eh bien, il a pourvu pour nous en Jésus-Christ. Et donc c'est là toute l'image. Remarquez que là, cette arche était là. Dieu a dit à Noé de construire l'arche, mais cette arche n'était pas uniquement pour lui, hein, parce qu'il nous parle de Pierre 2:5, il nous dit que Noé était un prédicateur de justice. C'est-à-dire pendant tout le temps, toutes les années qu'il était en train de construire cette arche, eh bien, il était un prédicateur. Il essayait de parler à ce peuple, de l'avertir, de lui dire, écoutez, Dieu va détruire. C'est pour ça que je construis cette arche. Dieu, il y a le jugement de Dieu est là. Moi, j'y crois. La preuve, je suis en train de construire cette arche. Croyez-moi. Et il a parlé à ces gens. Les inviter à le rejoindre dans l'arche. Vous savez, il n'est pas né dans l'arche. Même pas Noé est né dans l'arche. Il était d'extérieur, comme les autres. Il fallait entrer dans l'arche. Personne n'est prédestiné à l'avance, hein, pour appartenir. Non, non. C'est un choix que chacun doit faire. Il entend le message et il répond et il rentre dans l'arche. À l'époque de Noé. Et donc, Noé était un prédicateur de justice auprès de ses contemporains. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, hein, donc dans 1 Pierre 3:20, eh bien, il dit, mais ils ont été incrédules. Le mot incrédule vient d'un mot grec, hein, qui signifie ne pas vouloir être persuadé, refuser de croire, refuser d'obéir, ne pas se soumettre, être rebelle. C'est-à-dire, pour refuser quelque chose, il faut l'avoir entendu. Hein. Il faut l'avoir compris et dit, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Enfin, c'est bon, vous savez, comme vous, hein, je reçois des appels tout le temps, on me propose des choses, et je dis, ça ne m'intéresse pas, merci. Eh bien, beaucoup font ça avec Dieu aussi. Hein. Mais bon, ce que lui nous propose, c'est tout à fait autre chose. Mais Noé, pendant tout le temps de la construction de l'arche, ça a pris des années, eh bien, il les a avertis, mais personne n'est entré. Même, il nous dit au sujet dans Luc chapitre 17, Jésus qui parle de Noé, Luc chapitre 17, et je lis les versets 26 et 27, donc Luc 17, versets 26 et 27, il dira, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il dit, ce qui s'est passé là, c'est exactement ce qui se passera quand je reviendrai aussi. Le message aura été prêché, le message du salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, en plaçant uniquement sa foi dans l'œuvre de Christ sur la croix. Il dit, cela aura été prêché, maintenant chacun après est responsable. S'il a entendu, après, il reçoit ou il... Bon, ce n'est pas forcément qu'il est contre, ce n'est pas qu'il attaque, mais il ne le reçoit pas. Eh bien, c'est pareil. Hein, il dit, les gens étaient occupés, le principe, et ça, vous savez, ça ressemble beaucoup à notre époque. Hein. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Hein, jusqu'à c'est ça le train-train à Paris, on disait métro boulot dodo, hein, c'est le cycle La vie, hein, on est enfant, on grandit, on se marie, on a des enfants, puis après on se retrouve grands-parents qui s'occupent de nos petits-enfants, et puis ça continue. Il dit, oui, mais faut entrer dans l'arche. Faut entrer dans l'arche. Peut-être que il faisait, oui, non, c'est pas un péché de se marier, d'avoir des enfants et tout ça. C'était normal, c'est ce que Dieu avait dit. Hein, faire. Mais où ils se sont trompés, c'est de ne pas rentrer dans l'arche. Il y avait un jugement qui venait et ils ne l'ont pas pris au sérieux. Et donc, toute cette idée, je reviens à Romains chapitre 1, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont dans l'arche. Hein, il faut croire que l'arche existe et par la foi, on pénètre. Et c'est là où on place toute notre confiance. Et donc, le fait d'appartenir à une église ou à une autre, le fait d'être baptisé ou pas, ça ne change absolument rien du tout. Alors, je lisais une petite méditation, et il me disait du brigand sur la croix. Il dit, il était là parce qu'il avait certainement commis des crimes. Il avait, mais lui, il n'a jamais pu aller réparer ses torts. Il n'a jamais pu même aller demander pardon pour ses torts, les gens qui avaient été ses victimes. Il n'avait pas pu être baptisé. Il n'a pas pu se joindre à une église. Il n'a pas pu prier avec quelqu'un. Il n'a pas pu serrer un autre croyant dans les bras. Rien du tout. Mais Jésus l'a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il dit, pourquoi ? Parce que cet homme a dit, souviens-toi de moi. Moi, je veux rentrer dans ton arche. Je m'associe à toi. Je deviens un avec toi. Et cet homme, finalement, il n'a pas pu faire un seul acte, sinon de se démarquer de son ami. Il dit, écoute, lui, c'est pas comme les autres. Ne te moque pas de lui. C'est tout ce qu'il aura dit. Mais il aura dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus l'a dit aujourd'hui. Tu ne vas même pas passer par un endroit où il faudra un peu souffrir pour purger de tes péchés. Il dit, tu n'auras pas. Et puis, écoute, tu souffriras, mais je t'assure que tu s'en sortiras après. Il ne lui a même pas dit ça. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est là... Il n'y a personne qui peut dire, Dieu, tu es... Ah, pour moi, je n'avais pas de chance. Hein. Il dit, peu importe, même si tu as la... C'était quand même... Ça rentrait dans le cadre du message de Jésus-Christ, qu'il soit crucifié avec deux brigands. Parce qu'il a pu répondre à des objections de beaucoup de monde. Il dit, non, c'est là. Ce qui importe, hein, un brigand était perdu, un brigand était sauvé. L'un valait l'autre. Mais l'un s'est confié à Jésus-Christ. Et ça a fait toute la différence. Noé et ses fils n'étaient pas meilleurs que ceux du dehors. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ses fils ne vont pas bien se comporter en sortant de l'arche. Parce que tous leurs souvenirs d'avant l'arche, ils les ont encore après l'arche. Et il va y avoir un mauvais comportement de l'un des fils qui entraînera une malédiction. Mais donc c'est pas parce que les fils étaient meilleurs que ceux qui sont dehors. La seule raison pour laquelle ils ont été sauvés, c'est parce qu'ils sont rentrés dans l'arche. Hein? L'église de Jésus-Christ, c'est pas fait pour les gens qui sont très bien. C'est fait pour les pécheurs. L'église, et même ici, je dis, c'est pour les pécheurs. Les gens qui n'ont pas de défauts, qui n'ont pas de péché, qui n'ont rien, on ne sait pas quoi faire pour eux. Parce que nous prêchons le salut pour les pécheurs. Et cette œuvre de Christ qui sauve, et l'Esprit de Dieu qui. Et donc, il va nous parler de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Hein, il a déjà parlé de l'Esprit de Dieu, mais il va développer l'importance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Eh bien, cet Esprit rendra possible de marcher non selon la chair, comme il est dit à la fin du verset 4, ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit. Donc, ce n'est pas juste une question, ben, je suis sauvé, et puis, voilà, très bien. Et donc, Dieu, je te retrouve à la fin, dans ma tombe, après la tombe, je te retrouve. Hein? Mais, non, c'est une fois que j'ai été délivré, maintenant, je marche selon l'Esprit. Hein, on développera ça plus par la suite, mais il dit donc à la fin du verset 4, il dit cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Comment la justice de la loi accomplie en nous? Eh bien, nous n'avons pas accompli. Il n'y en a pas un ici qui peut dire moi j'ai gardé la loi. Hein. Parce que déjà, vous souvenez, il y a peut-être deux dimanches, j'avais parlé du dixième commandement, tu ne convoiteras point, et je ne sais pas lequel d'entre nous n'a jamais convoité. Hein. Bon, c'est un péché secret, donc personne ne le sait, donc il n'y a personne qui nous tape sur les doigts à cause de ça, mais il est là quand même. Hein. Et c'est... tout d'un coup, j'ai perdu ma pensée. Comment la loi est accomplie? Eh bien, parce que Christ a accompli la loi. Et si je suis en Christ, c'est comme si je l'ai accompli. Et donc, Dieu me voit en Christ comme ayant accompli la loi. Hein, c'est parce que lui l'a gardée. Hein, il nous dit, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la garder, hein, pour l'accomplir. Et donc, donc la seule manière pour nous de pouvoir prétendre d'être juste sous la loi, c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ, lui qui a gardé la loi. Personne n'a pu dire, quand ils ont voulu, il fallait qu'ils payent des gens pour mentir, pour trouver quelque chose de mal à dire contre Jésus. Hein? Ils payeraient pas cher pour trouver quelqu'un qui puisse dire du mal sur moi. Hein, il y en a qui le disent pour gratuit. Mais... Jésus n'a pas pu trouver quelqu'un. Et d'où l'importance d'être en Jésus-Christ, de pouvoir avancer son nom. Et d'où l'importance, tout le long, quand on parle, on parle au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus, on agit au nom de Jésus, parce que à mon nom, ça ira pas loin. Mais au nom de Jésus, là, le ciel s'ouvre. Et c'est ça le plan. Et donc, je relis ce verset 4. Il dit cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, pas qui dormons, qui marchons non selon la chair, hein, avant on le faisait bien, mais selon l'esprit. Et donc, le reste du chapitre va nous un peu nous expliquer à comprendre ce que c'est que de vivre selon l'esprit et quelle est cette œuvre. Et donc, mais ce matin, ce qui était important, c'est de ça, c'est insister sur le fait d'être en Jésus-Christ, hein, d'être en lui. Et si je suis en lui, eh bien, je suis aussi sauf que l'était Noé dans l'arche. Hein. Et donc, nous pouvons faire confiance. Et Jésus, c'est encore plus sûr que l'arche, qui était fait tout à fait selon les instructions de Dieu. Et Jésus-Christ a gardé toutes les instructions du Père et il les a accomplies. Et l'arche était une arche sûre. Donc la grande question, bien sûr, la première question, c'est est-ce que je suis dans l'arche? Est-ce que je suis sûr d'être dans l'arche? Et si je ne le suis pas, peu importe ce que j'ai pu vivre ou pas vivre, ce que j'ai fait ou pas fait, ce qui importe, c'est si je suis en Jésus-Christ, de s'assurer. Hein, Dieu a fait une promesse, il a dit, si tu crois, eh bien... tu seras sauvé. Hein? Fais-moi confiance, je te promets que si tu te places entre mes mains, eh bien, je te sauverai. Et donc, nous pouvons être sauvés. Et puis après, c'est une question aussi de pouvoir vivre pour lui. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Nous avons la parole et nous avons l'Esprit de Dieu pour nous aider. Et nous verrons ça dans la suite du chapitre. nous voulons prendre un moment. Je vous, quelque part, vous avez peut-être envie dans votre cœur de dire, Seigneur, je voudrais être dans, je voudrais être sûr d'être dans l'arche. Et si vous avez le moindre doute ou quelque chose, écoutez, appelez-moi, je vais vous aider à avoir cette assurance. Non pas parce que moi je peux vous le promettre, mais parce que je peux vous dire où Dieu l'a promis. Et puis ensuite, peut-être que vous avez, j'ai envie de dire, Seigneur, merci pour ce salut. Hein. Donc on va avoir quelques moments de silence et vous pourrez prier dans votre cœur et dire au Seigneur exactement, et nous voulons pas être incrédules, mais nous voulons être croyants et faire confiance. Et après, je prierai.